VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par les relations États-Unis-Afrique. Le secrétaire d'État Mike Pompeo débute son périple africain demain samedi. C'est la première visite du chef de la diplomatie américaine en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction il y a 2 ans. Monsieur Pompeo ira tout d'abord au Sénégal, puis se rendra en Angola avant d'achever sa tournée en Éthiopie. Des pays sélectionnés pour l'attachement de leurs dirigeants aux valeurs démocratiques dans une région du monde qui a connu un recul dans ce domaine depuis quelques années. Le dernier secrétaire d'État à avoir visité l'Afrique subsaharienne était Rex Tillerson, le prédécesseur de Mike Pompeo, en mars 2018. Ce voyage ne lui avait pas porté chance. Le président américain Donald Trump l'avait limogé dès son retour aux États-Unis. Au Mali, l'armée malienne est entrée jeudi à Kidal, dans le nord du pays. Ville symbole d'où elle était absente depuis des années, où son retour est censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire national. Le détachement vient de rentrer dans le camp à Kidal, ils sont près de 300. Nous avons été escortés par les casques bleus de l'ONU et tout s'est vraiment bien passé, a déclaré à l'AFP un commandant malien sous couvert de l'anonymat. Il espère rejoindre Sidi Mohamed Acharas, gouverneur de Kidal, qui était présent lors de l'entrée des femmes à les forces armées maliennes dans le bastion culturel des Touaregs du Mali.
C'est vraiment un jour d'espoir et un jour de joie aussi pour le peuple malien et pour la population de la région de Kidal. Le bataillon des forces armées maliennes est rentré à Kidal à 16h. Je l'ai personnellement accueilli à l'entrée de la ville et il a été installé au niveau du camp général de Blaise Soumaré. Ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun incident depuis le départ de ce convoi-là de Gao depuis 4 jours jusqu'à l'arrivée à Kidal. Il n'y a eu aucun incident. Ça s'est très bien passé. L'armée est bien arrivée à Kidal. Elle a été bien installée.
Est-ce qu'elle a été bien accueillie? Est-ce que, par exemple, leurs anciens ennemis qui sont maintenant dans la CMA étaient là pour les accueillir aussi?
Le responsable de la CMA n'était pas là pour les accueillir, mais leur retour est accepté aussi bien par la CMA que par les populations. J'ai échangé avec le responsable de la CMA qui m'a dit que ce retour a été fait de façon tout à fait consensuelle et qui ne prêtait aucun problème.
Et on nous dit qu'avec ce retour de quelques 300 soldats, qu'il y aurait déjà même une force unifiée avec d'anciens rebelles qui ont déjà intégré l'armée. Qu'est-ce qu'il en est?
Non, écoutez, pour nous, c'est l'armée malienne. Les groupes armés ont intégré l'armée malienne. Et dès qu'ils ont intégré l'armée malienne, avec les fanions de l'armée malienne, les insignes de l'armée malienne, les grades de l'armée malienne, nous, on ne parle plus d'anciens rebelles. Pour nous, c'est l'armée malienne. Ici, on dit que c'est l'armée nationale reconstituée. Voilà, donc c'est la terminologie qui est utilisée. Il n'y a pas de différence entre les anciens rebelles et les anciens des forces armées régulières. Il y a une nouvelle armée malienne reconstituée qui revient au nord du pays pour les sécuriser en accord avec les populations, en accord avec tous les acteurs.
Quelle sera la fonction de cette armée reconstituée à Kidal alors?
Je crois que c'est un processus qui se met en place petit à petit. L'armée, comme tout l'État, reprendra ses fonctions régaliennes progressivement sur toutes les tendues du territoire national. Ça se fera dans la négociation, dans la concertation, dans la recherche du consensus, de l'entente, mais ça se fera, ça prendra peut-être quelques temps, mais ça se fera. Donc la mission de l'armée, que ce soit à Kidal, à Tombouctou ou à Gao, c'est la même mission qu'elle a sur toute l'étendue du territoire national, c'est la mission de défendre le territoire, de sécurisation des populations.
Sidi Mohamed Acharas, gouverneur de Kidal au Mali, au micro d'Idriss Fall. Au Niger voisin, la justice a autorisé le principal opposant nigérien, Amar Amadou, a quitté la prison de Filengue où il est incarcéré depuis près de 3 mois pour aller se faire soigner en France. Le point avec Jean-Roger Bion.
La justice a signé une autorisation permettant à Amar Amadou d'aller se faire soigner en France, a annoncé hier Issoufou Issaka, un des dirigeants du Modène, parti d'opposition. Une source judiciaire a confirmé, précisant que l'ancien Premier ministre est tenu de réintégrer la prison de Filengue dans le délai maximum de 15 jours. Âgé de 70 ans, Amar Amadou a été condamné à 1 an de prison pour trafic de bébés. Il a déjà été incarcéré à Filengue en novembre 2015 à son retour d'un premier exil. En mars 2016, il est arrivé 2e à la présidentielle sans faire campagne. Il a déjà été autorisé à se rendre en France pour des raisons de santé. Il n'était plus revenu dans son son pays jusqu'en novembre dernier. Depuis, il était retourné volontairement en prison et pourrait même quitter le Niger aujourd'hui pour la France. En août dernier, il a été désigné par son parti, le MoDem, candidat à la présidentielle de décembre 2020.
La lutte contre les djihadistes au Nigeria maintenant, Amnesty International a appelé ce vendredi à une enquête sur des opérations de l'armée nigériane dans le nord-est du pays où des villages ont été rasés par les militaires qui se battent contre les djihadistes, selon l'Organisation de défense des droits humains basée à Londres. Sur la base d'interviews de 12 villageois et l'analyse de données satellites, Amnesty a affirmé que l'armée nigériane avait démoli 3 villages sur une route menant à Maïdougou, chef-lieu de l'État de Borno, épicentre de l'insurrection de Boko Haram, après en avoir expulsé des centaines d'habitants les 3 et 4 janvier.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique au Cameroun, les élections législatives et municipales de dimanche dernier dans le pays ont été marquées par une faible influence des électeurs. C'est ce qu'estime l'Union africaine en citant ses observateurs dépêchés sur place pour le scrutin. Pour le moment, Yaoundé n'a livré ni résultat officiel pour les législatives, ni taux de participation électorale. Précision de John Lyndon.
La mission d'observation de l'Union africaine a relevé une faible affluence dans une déclaration publiée le 11 février. Les élections législatives et municipales du 9 février se sont tenues dans un contexte de tension et l'absence de consensus entre les acteurs politiques, souligne l'Union africaine, ajoutant « Cela a pu affecter le caractère inclusif des dites élections et la mobilisation des électrices et des électeurs ». Aucun engouement particulier n'a été noté, ajoute-t-elle, sans donner d'indications chiffrées. Les premiers résultats des municipales sont progressivement publiés. À Douala, la capitale économique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir, a remporté le scrutin dans les 6 communes de ce grand port, y compris l'unique mairie qui était gérée depuis 2013 par le SDF, le Social Democratic Front, principal parti d'opposition. Jeudi, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, s'est félicité estimant que le peuple camerounais a suivi massivement son mot d'ordre de boycott.
Au Tchad voisin, les élections législatives sans cesse repoussées depuis 2015 se tiendront le 13 décembre 2020 dans un pays dirigé depuis plus de 30 ans par le président Dibri. Par le président Idriss Déby Itno. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La CENI prévoit que la campagne officielle débutera le 21 novembre. La programmation des résultats provisoires devrait intervenir le 27 décembre pour les sièges des 161 députés. La liste officielle et définitive des élus sera rendue publique plus tard par la Cour suprême. République démocratique du Congo, la firme américaine General Electric Company a signé hier avec le gouvernement congolais un mémorandum d'entente pour des réalisations dans le domaine de la santé et de l'électricité. La signature a eu lieu en présence de Peter Pham, émission spéciale des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Plus de détails avec Eddie Sango.
L'entente de près de 2 milliards de dollars porte sur deux domaines, l'énergie et la santé. Deux ministres congolais ont signé avec les directeurs généraux de General Electric pour l'Afrique francophone. L'entente sera suivie d'un accord plus élargi, mais la date des signatures n'a pas été révélée. C'est un pas de plus dans les nouveaux partenariats privilégiés conclus avec les États-Unis depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, a déclaré Peter Pham. L'envoyé spécial américain affirme espérer que d'autres investisseurs américains suivront. Déjà présent au Congo dans les domaines des réparations des barrages, General Electric devrait, avec la nouvelle entente, réhabiliter les turbines Dinga 1 et 2 en vue d'une production de 650 MW d'électricité pour les réseaux nationaux. La RDC négocie aussi avec General Electric pour des projets hydroélectriques de 1000 MW. Côté santé, les discussions portent sur près de 800 millions de dollars d'investissement dans les infrastructures.
Conflit en Afghanistan pour terminer, les États-Unis ont obtenu une trêve partielle d'une semaine en Afghanistan pendant les pourparlers avec les talibans et Washington espère que cette trêve pourra conduire à un accord avec ces derniers. L'annonce de la trêve partielle a été faite jeudi à Bruxelles par le chef du Pentagone, Mark Esper, au cours d'une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. Un accord entre les États-Unis et les talibans est très proche, a de son côté assuré à Washington le président américain Donald Trump. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.